et je recevrai Jean-Jacques Hublin, l'un des plus grands spécialistes de la paléoanthropologie. Il explore les mystères de l'évolution humaine avec passion et rigueur.
Les matins de France Culture, aujourd'hui à 6h30 sur France Culture, franceculture.fr et l'appli Radio France.
Vous écoutez France Culture. Les pieds sur terre. Sonia Kronlund.
Certains activistes et chercheurs essaient depuis quelque temps de réfléchir en termes nouveaux aux droits des enfants, dont c'est aujourd'hui la journée internationale. L'idée consiste à penser que les adultes exerceraient une forme de domination sur les enfants et les mineurs, au même titre que les hommes sur les femmes ou les blancs sur les noirs. Et qu'à ce titre, les enfants seraient victimes de discrimination, objets de préjugés propres à leur condition de mineur, comme les vieux aussi le sont en raison de leur âge, invisibilisés, traités comme des citoyens de seconde zone parfois. On pourrait alors parler d'infantisme comme on parle de sexisme ou de racisme. C'est un léger basculement de perspective, une façon de regarder la condition et le statut des enfants que je trouve intéressante et qui, en tout cas, a le mérite de poser des questions nouvelles, d'ouvrir des pistes de réflexion, même si cela va contre nos intuitions et idées généralement admises. Quand en plus les enfants sont victimes de discrimination sociale et ou de violences familiales, c'est la double, la triple peine. Aujourd'hui donc, pour parler des droits des enfants, on vous propose une émission complexe où on ne sait pas toujours où sont les gentils et les méchants. Les deux histoires se passent dans des familles d'accueil de l'ASE et notre point de vue, c'est celui des enfants qui sont nés dans ces familles accueillantes et ce qui se passe quand un nouvel enfant placé arrive ou s'en va, par Karine Lelouette.
J'ai 24 ans, j'habite dans le sud de la France et je suis la fille d'une ex-assistante familiale. Alors moi, j'ai grandi sans frères et sœurs, je suis fille unique. Ma maman, elle a choisi ce métier parce que ça a toujours été une personne qui aime aider les autres et aussi parce que, en fait, c'est un métier qui lui offrait la possibilité de rester à la maison et de s'occuper de moi. Alors, ma mère a commencé en 99, moi je suis née en 2000, donc elle avait un seul accueil à ce moment-là parce qu'elle débutait, un accueil avec un adolescent qui, lui, m'a tout de suite considérée comme sa petite sœur. Moi, je voyais pas la différence entre un enfant qu'on accueillait et un grand frère, donc je le considérais comme mon grand frère. Et cet enfant, malheureusement, en fait, a été enlevé de notre famille d'accueil du jour au lendemain, parce que c'était un enfant avec des troubles de comportement, et ils estimaient que ma mère, en fait, n'arriverait pas à le calmer. Et du coup, ils nous l'ont enlevé pour le mettre dans un institut, en fait, justement, pour les enfants avec des gros troubles de comportement. Quand il est parti, j'avais 3 ans. Et ça a été un vrai traumatisme, parce que, encore une fois, j'étais bébé. Et du jour au lendemain, avoir une figure qu'on considère comme son grand frère qui disparaît sans aucune explication, ben, en fait, on comprend pas. Et d'ailleurs, quand elle a réaccueilli derrière un autre enfant, qui devait aller du coup dans la chambre de cet adolescent, bah en fait, je me mettais devant la porte en disant « Non, non, c'est pas ta chambre, va-t'en en fait, qui es-tu ?» C'est très difficile de devoir à chaque fois se réadapter à l'enfant. Et en plus, on nous demande de nous y attacher alors qu'on sait pas combien de temps ils vont rester. C'est pas marqué dans les contrats s'ils restent 20 ans, 6 mois, 2 semaines. Forcément, pour me protéger, il y a un moment, j'étais plus du tout attachée aux enfants, donc en fait, ils venaient. Ils repartaient, ça ne faisait ni chaud ni froid, et même, en fait, je ne m'intéressais pas du tout à eux. En plus, comme ma mère est éducatrice spécialisée, on avait des enfants que avec des troubles de comportement. Donc, c'est violent quand t'es enfant de faire face à des enfants qui ont plein de problèmes et qui, en plus, ont subi souvent des violences même. Ils vivent vraiment des choses indescriptibles. Alors que moi, bah, j'étais dans mon petit cocon, j'étais choyée par mes parents. Et c'est vrai que, ouais, non, être confrontée très très jeune à une telle violence, ça laisse des traces. Les enfants qu'on a accueillis derrière étaient à peu près de mon âge. On a eu un jeune garçon qui avait, donc Mehdi, qui avait 2 ans à ce moment-là, donc moi j'en avais 3. C'est un enfant qui a toujours eu énormément de troubles de comportement. Par exemple, bah, j'avais un petit chien, il a fait que le frapper, ce chien est devenu agressif, on a été obligé de donner le chien. À ce moment-là, je disais « Pourquoi on donne pas l'enfant et pourquoi je peux pas garder mon chien ?» Il s'était mouché dans mes vêtements, il pissait dans mes jouets, donc c'était très compliqué de vivre avec. En plus, il est resté 20 ans à la maison. Ça a été le plus long accueil qu'on ait fait. Donc il est arrivé bébé, il est reparti, il avait 22 ans, et c'est jamais passé entre nous, parce que pour moi, c'était vraiment un envahissement permanent, parce qu'on l'avait en plus 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, il rentrait pas dans sa famille parce que ça se passait vraiment pas bien. Et puis lui, en grandissant, a fini par nous considérer comme sa famille, mais moi, pour moi, c'est impossible de le considérer comme mon petit frère. En primaire, j'ai souvenir, même au collège, les professeurs, ils nous faisaient tout le temps remplir une petite fiche en début d'année où on donnait nos informations en disant est-ce qu'on a des frères et sœurs, nos parents, qu'est-ce qu'ils font, etc. Moi, forcément, je disais toujours que j'étais fille unique. Lui, il disait tout le temps qu'il avait une sœur. Tous les ans, je devais réexpliquer à mes professeurs, non, en fait, c'est pas du tout mon frère. Voilà, ma mère fait ce métier, on l'accueille. Lui, forcément, me considère comme sa sœur, mais non, moi, je ne le considère pas comme mon frère. Nous ne sommes pas liés par le sang. Toute ma vie, que ce soit avec la famille, les amis proches, ils estimaient que oui, mais les pauvres, eux, t'as vu ce qu'ils ont vécu, ils n'ont pas leurs parents, toi, arrête de te plaindre, t'as tes parents, t'es heureuse. Donc c'est bon, t'as rien à dire. Par exemple, je me souviens une fois, une dame qui nous offrait des places pour aller dans un petit parc animalier proche de chez moi. Et moi, toute contente, j'ai dit « Ah bah trop cool, j'irai un week-end où on n'aura pas les enfants avec nous, avec mes parents. » Et ça l'a choquée que je dise ça. Elle a dit « Bah non, faites-le quand il y aura tous les enfants, amène-les. » Et j'avais beau lui expliquer que je n'avais pas envie, que je voulais prendre ce moment avec mes parents, elle n'arrivait pas à comprendre. Et vraiment, elle a été premier degré choquée que je lui dise que je n'avais pas envie qu'il soit avec nous à ce moment-là. Et surtout, en fait, d'être constamment envahie dans ma maison fait que je me suis retranchée dans ma chambre. Donc, bah, je lisais, je dessinais aussi, j'étais sur l'ordinateur, j'aime bien jouer aux jeux vidéo. Donc, j'étais ce qu'on appelle un fantôme. Hein. C'est vraiment un surnom qu'on me donnait à la maison. Je sortais pour aller à l'école, je sortais quand je devais aller voir des amis. Mais en dehors de ça, on ne me voyait pas. Mes parents, ils ont toujours été très très proches de moi. J'ai toujours été leur fille et ils ont toujours fait la distinction entre leur fille et les enfants qu'on accueillait. Ils m'ont toujours demandé comment je me sentais vis-à-vis des enfants qu'on accueillait. Quand ça allait pas, ils me disaient surtout « tu nous en parles ». Maintenant, pour ce qui est du temps passé ensemble, ça a été très compliqué. Il faut savoir, ma mère n'a pas pris de vacances jusqu'à mes 5 ans. Les premières vacances qu'elle a prises, c'est parce que je pétais un câble avec ce métier. Je disais déjà à cette époque que j'avais envie de les tuer, les gamins. J'en étais à ce stade-là. Alors, c'est les tuer forcément de la bouche d'une enfant de 4 ans. Hein. Et du coup, ma mère m'a pris des séances de psy pour que j'aille en parler à quelqu'un d'extérieur, en fait. Et je sais que donc c'est cette psychologue qui s'est entretenue avec ma mère et qui a dit là stop, faut que vous preniez du temps pour votre fille. Du coup on a pris nos premières vacances quand j'avais 5 ans et elle a pris une semaine. Puis après ma mère avait essayé de prendre ce qu'on appelle des week-ends relais, c'est-à-dire que les enfants partaient dans des familles d'accueil relais pendant juste un week-end pour que je puisse avoir du temps avec eux. Et quand c'était pas possible, ben en fait je faisais une soirée, un coup avec ma mère, un coup avec mon père, donc on allait manger quelque part, on faisait une séance de cinéma. Mais c'était quand même des moments que j'appréciais forcément parce que ben en semaine, sinon c'était l'enfer, je les voyais jamais. Un moment, j'ai un souvenir où on avait 3 accueils, donc sur la plus jeune qu'on avait à ce moment-là, elle hurlait sans arrêt, mais à pleurer, à se vraiment tremper ses vêtements, ses draps de lit, impossible à arrêter. Moi, j'avais mal au cœur vis-à-vis de ma mère qui, elle, du coup, se dédiait complètement à ce métier. Quand elle voyait cette petite, ça lui arrachait le cœur. Elle comprenait pas pourquoi elle faisait que pleurer. Donc, elle passait des heures la nuit à essayer de la calmer. Elle dormait pas. Et le problème, c'est qu'on en a parlé, forcément. J'ai eu plein de fois où j'ai dit « Mais maman, mais fais une pause. Je sais pas où, change de métier. » Et elle a toujours refusé parce qu'elle, elle adorait ce métier. Même si ça l'épuisait. Du coup, ouais, quand j'ai commencé à gagner en autonomie et du coup à l'aider à ce sujet, des fois je lui disais, bah écoute, là, tu prends un moment pour toi avec papa, tu vas voir tel ami, tu vas voir ta mère, ton père, vous prenez une soirée pour vous, et du coup c'est moi qui m'en occupais. Donc je leur faisais à manger, je les lavais la plupart du temps aussi quand ils étaient trop jeunes. Donc je devenais moi-même assistante familiale. C'est là la difficulté, c'est que c'est un métier en soi, c'est ma mère qui fait ce métier, mais en final, toute la famille est mobilisée. Mais c'est vrai que ça reste compliqué, quoi, parce que c'est pas notre métier à nous, on n'est pas formé pour ça. Donc le confinement commence en 2020, donc j'étais en première année de licence en art. Moi, je suis ultra heureuse, on va pas se mentir, parce que pour moi, être confinée à la maison, bah en fait, c'est ma vie. Et je me dis, bah trop bien, j'ai plus à sortir côtoyer les gens. En contrepartie, bah je suis confinée avec les enfants qu'on a à la maison. On a 3 accueils à ce moment-là. Donc Mehdi, ça va, il était grand, donc on n'entendait plus trop parler, enfin, il faisait plus trop de bêtises. Mais les 2 jeunes qui avaient à peu près le même âge, là, ils se sont pas arrêtés. Bah c'est là où ils nous ont pété un bac de douche, c'est là où on a eu un mur qui a été explosé. Entre eux, ils se battaient tout le temps. Surtout que là, il n'y avait plus d'accompagnement. Forcément, les enfants restaient à la maison. Donc, on était vraiment 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, ensemble, collés. Et finalement, ma mère a fini par faire un burn-out. Ça a vraiment été le confinement où j'ai commencé à me rendre compte que ça allait pas. Elle oubliait des choses, elle retenait moins ce qu'elle devait faire. Tu lui disais quelque chose, elle te répondait 10 minutes après. Donc au début, tu mets ça sur la fatigue, tant physique qu'émotionnelle. Et puis au bout d'un moment, tu dis, bon, c'est peut-être un peu plus sérieux. Et là où vraiment, on s'est dit, non, là, il faut faire quelque chose, arrêter, c'est quand elle s'est mise à pleurer, mais pleurer, impossible de s'arrêter, et elle s'est mise carrément à se balancer sur elle-même. Donc vraiment une détresse émotionnelle intense. Et du coup, donc derrière, ma mère est allée voir des médecins, des psychiatres, ils l'ont mise en arrêt. Donc ouais, c'était très très difficile. On n'a pas discuté tout de suite de si elle allait arrêter le métier, forcément, on a laissé un certain temps s'écouler. Et quand elle s'est sentie bien pour en parler, un petit peu mieux, on s'est mise autour d'une table et là on a dit bon, qu'est-ce qu'on fait pour l'avenir ? Comment ça se passe ? Parce qu'il faut savoir que mon père ne travaille pas parce qu'il est handicapé. Il a eu un accident de travail il y a quelques années qui fait qu'aujourd'hui il ne travaille pas. Donc c'est dur parce que là on se retrouvait vraiment sans revenus. Moi j'étais encore en études et ma mère était en mode faut qu'on assure nos arrières, faut que je retravaille. Du coup on a eu une très longue discussion qui a duré plusieurs jours. Forcément ça s'est pas fait en une seule soirée. Où on lui a dit, si tu dois retravailler, surtout tu ne reprends pas ce métier. C'est hors de question, on n'accueille plus d'enfants. Ça a été très très dur, mais elle a fini par l'accepter. Moi, je me souviens que quand elle a vraiment acté qu'elle ne reprendrait plus ce métier, je me suis sentie mais vraiment heureuse. Et puis, donc, il y a eu la redécouverte aussi de la maison, les moments passés avec mes parents. Je redescendais le soir quand ils étaient dans le salon, je passais du moment avec eux, on discutait. Ah, t'as fait quoi aujourd'hui ? Ah, j'ai fait ça. Et vous, vous avez fait quoi ? Maintenant, faut savoir que donc on n'accueille plus d'enfants, mais on est toujours en contact avec deux d'entre eux. Donc le premier qui était là quand moi j'étais tout bébé, qui est parti du jour au lendemain. On n'est pas non plus très très proche, mais on est toujours en contact. Et on a Mehdi qui lui donc pareil est parti il y a 2 ans, qui aujourd'hui est animateur. Il continue de venir à la maison parce que pour lui, mes parents c'est ses parents. Par exemple, récemment, il s'est fait tatouer sur les bras les initiales de mes parents. Alors, sur le coup, je me souviens que quand il nous l'a dit, ça m'avait touché, mais pas touché dans le bon sens du terme, malheureusement. Et c'est vrai que c'est dur de jongler, en fait, entre le... Encore une fois, je peux comprendre, parce qu'il a quand même passé 20 ans de sa vie avec nous. Mais moi, je suis plus en mode, bon, tu viens, mais t'es plus une connaissance, quoi. J'arrive pas à te considérer comme un membre de ma famille.
France Culture. Les pieds sur terre.
Je m'appelle Cyrienne, j'ai presque 26 ans, dans une quinzaine de jours, et j'habite à Pierrelatte, dans la Drôme. Je suis kiné. J'ai grandi avec mon père, ma mère et mes 3 frères et sœurs jusqu'en 2009, où mes parents se sont séparés. À la suite de ça, ma mère a voulu faire famille d'accueil, assistante familiale. Et à partir de la 3e, donc quand j'avais 13 ans, j'ai commencé à grandir avec d'autres enfants qui n'étaient pas mes frères et sœurs, mais que je considérais comme tels. Alors, quand elle a voulu faire ce métier, je me souviens un petit peu qu'elle nous avait beaucoup demandé notre avis, si ça allait pas être trop dur pour nous et tout ça. Puis nous, on voyait surtout plein de copains et plein de copines parce qu'on était jeunes à l'époque. Donc on s'était dit, trop bien, on va avoir des nouveaux frères et sœurs, ça va nous faire des nouveaux camarades de jeu. Donc on a été interrogés par notre mère pour savoir si on était d'accord. Dans mon souvenir, on avait tous les 4 donné notre accord. Et ensuite, on a été interrogés par le service, la psychologue du service et tout ça pour savoir si nous, on n'était pas contre ou autre. C'est le service ASE, aide sociale à l'enfance, qui était avant la DAS. La première petite fille qui est venue, elle est arrivée, elle avait tout juste 6 ans et au début elle venait juste le week-end. Tout son parcours s'est très bien déroulé. Elle est restée tout le reste de sa vie chez nous. Elle est partie en contrat jeune majeur à ses 18 ans, donc là elle a son petit appartement à elle maintenant. Pour les autres qui sont arrivés ensuite, parce qu'il y a eu des échanges, on va dire des enfants qui sont partis, d'autres qui sont arrivés. Alors ça dépendait des enfants, il y en a, on était bien contents qu'ils s'en aillent. C'est peut-être dur à dire, mais il y a des enfants qui étaient vraiment très compliqués pour lesquels on s'est fait mener la vie dure, on va dire. Et il y en a d'autres, en fait, tant qu'on ne sait pas qu'ils vont partir, on vit un peu au jour le jour à se dire, bon, de toute manière, la prochaine échéance, c'est dans 1 an, parce que l'audience, elle vient de passer, et on sait que l'enfant reste pour au moins encore 1 an. C'est les audiences chez le juge où le juge va décider en fonction de ce que les parents ont pu apporter et de ce que les familles d'accueil vont apporter comme écrit. Si l'éducateur et le chef de service disent que les parents sont aptes à récupérer l'enfant, le juge mettra en place une adaptation, voire faire retourner l'enfant directement. Ma mère et mon beau-père ont emménagé ensemble quand j'étais au lycée, il me semble. Je sais juste qu'ils connaissaient ma mère de quand ils étaient jeunes. Ils se sont retrouvés après leur divorce mutuel, d'ailleurs. Ça devait faire 3 ou 4 ans qu'elle faisait le métier de famille d'accueil, et mon beau-père, avant, ne l'était pas. Et en fait, je pense que ma mère faisait ce métier. Il a dû se dire, c'est, entre guillemets, facile, c'est un métier à la maison, on est tranquille. Bon, aujourd'hui, je pense qu'il dirait plus la même chose. Il a déménagé de vers Paris jusqu'à ici, dans la Drôme. Et en même temps, il s'est fait embaucher par le département pour devenir assistant familial. Et ils ont acheté une maison sur Saint-Paul, avec, je crois, entre 8 et 10 chambres, pour pouvoir accueillir des enfants chacun de leur côté, tout en nous accueillant nous. Et il y avait même des chambres pour ses propres enfants à lui. Il a dû arriver en 2015 et il a eu son premier accueil en janvier 2016. Un petit garçon qui, du coup, avait 10 mois, qui était né en mars 2015. Et qu'on va appeler Théo ici pour pas dire son vrai prénom du coup, parce qu'il est encore mineur actuellement. Donc quand ce petit garçon il est arrivé, c'était mi-janvier, je crois que c'était peut-être le jour ou le lendemain de l'anniversaire de mon beau-père d'ailleurs. Il est arrivé de Corse. C'est un pur hasard parce que c'est une erreur de dossier. De base, il devait être attribué à une famille d'accueil de Valence. Il est arrivé chez nous parce qu'il y avait des violences conjugales. Il faisait que pleurer et on lui avait mis une chambre au rez-de-chaussée. Et donc il avait sa chambre juste en face de la mienne. Et donc on l'avait couché parce qu'apparemment il n'avait pas dormi de tout le trajet. Il pleurait. Puis il faisait un peu frais dans sa chambre parce que c'était en janvier, donc en hiver. Et je suis allée le chercher, je l'ai posé dans mon lit. Et il a arrêté de pleurer instantanément. Et puis il regardait absolument tout ce que je faisais. Et à l'époque, du coup, en 2016, j'allais passer mon bac, donc je révisais le bac. Et il me regardait avec des grands yeux. Il était un petit peu gros en plus à l'époque parce qu'il mangeait 7 biberons par jour, je crois. Il avait des cheveux tout raides sur la tête, avec ses yeux gris, et il était très très beau. Ce petit garçon avait un caractère extrêmement dur, encore aujourd'hui, hein, enfin, très capricieux, très en demande, énormément peur de l'abandon. Je pense que ce petit garçon s'est beaucoup attaché à moi parce que, alors je suis née en 98 et sa mère est née en 95, donc on a des âges assez proches. Quand il est arrivé, je me suis pas spécialement sentie investie de devoir moi m'en occuper ou autre. En fait, c'est quand lui m'a choisi que je me suis dit bon bah je vais m'occuper un petit peu de lui. Mais je m'attachais pas plus que ça à lui au début parce qu'il devait rester que 6 mois, le temps que la mère se retourne et que elle le récupère au bout de 6 mois. Mais à l'audience, il s'avérait qu'il allait rester 6 mois de plus, puis 6 mois de plus, puis 1 an, 2 ans, 3 ans, jusqu'à ses 9 ans et demi. On a tous des surnoms dans la famille. Moi, mon surnom, c'est Nounoun. Ma mère, c'était Mamette, pour que ça ressemble un petit peu à maman, mais que ce soit pas maman, que ce soit pas trop dur pour les parents si jamais ils entendaient ça. Et mon beau-père, c'est Nono. Ils ont résisté à l'appellation papa et maman un tout petit peu au début. Puis en fait, quand ils ont vu que les éducateurs, ils étaient pas contre, et qu'au contraire, ils disaient que ça pouvait, enfin, la psychologue, en l'occurrence, disait que ça pouvait être bénéfique pour lui d'avoir un papa et une maman, que ce soit réel ou entre guillemets fictif. C'était important pour lui, pour son évolution et pour grandir correctement. Mais je pense que ce qui aurait été le plus important, c'est de lui expliquer pourquoi il est en famille d'accueil et que c'était pas grave de pas avoir un papa, mais d'avoir un nono, c'était aussi bien, et de pas avoir une maman, mais une mamette, c'était aussi bien aussi. Moi, j'ai vite considéré comme mon petit frère parce que bah, du coup, il m'a choisi quand il est arrivé, il est resté plus que ce qu'il n'aurait dû. Et puis, il avait l'âge d'un petit que ma mère et mon beau-père ont failli avoir naturellement. Ça s'est pas fait pour des raisons médicales, enfin, il y a eu des soucis qui ont fait qu'ils n'ont pas eu cet enfant. Et comme j'étais au courant de ce chemin qu'ils faisaient ensemble, en fait, j'ai un petit peu associé ça à ce petit garçon-là aussi. Et puis même de l'attachement qu'on avait pour lui, de l'âge qu'il avait quand il est arrivé, du fait qu'on lui a appris à marcher, on lui a appris à parler, on lui a changé ses couches, on lui a appris à être propre, on lui a appris à lire, à écrire, à compter. Chose qu'on n'a pas forcément fait avec les autres, puisqu'ils sont arrivés à des âges différents. Surtout qu'à cette époque-là, c'était le seul tout petit qu'on avait, puisque les autres enfants qu'on a accueillis à ce moment-là, ils avaient... plus d'une dizaine d'années. Au moins, le rôle que j'avais de grande sœur / petite maman, on va dire, c'est quand j'ai eu mon permis, il venait avec moi dans la voiture, parce que j'avais le droit de le transporter sur des petits trajets, parce que ça, pareil, il fallait une demande d'autorisation de ça avec le service. Et c'était la petite session gros mots, parce qu'on sait que les enfants aiment bien dire les gros mots, et du coup, il venait dans la voiture et il commençait à dire des petits gros mots, notamment merde, et d'autres un petit peu plus gros qui m'ont bien surpris au début. Du coup, quand il venait avec moi, c'était son petit moment... On allait à Lidl acheter des petites bêtises, à Action acheter des conneries, voilà. Donc il est resté 6 mois de plus, puis 6 mois de plus, puis 6 mois de plus, parce qu'en fait, sa mère, elle disparaissait du décor, on va dire, et elle donnait plus aucune nouvelle. Du coup, la juge, elle disait, la mère, elle est pas là, donc le petit reste en famille d'accueil, sauf qu'à chaque fois, la mère, elle revenait avec une bonne raison d'avoir disparu. Enfin, bonne, d'après le juge. Il y a une fois où elle est partie quasiment un an, et la psychologue du service ou un des éducateurs a commencé à parler d'envisager une potentielle adoption. Puisque comme le père était plus dans le tableau non plus, il y avait juste à retirer les droits paternels, et puis je crois qu'il y a un délai de 6 mois supplémentaires, puis ensuite, une fois qu'il y a le délaissement parental d'un ou des deux parents, du coup, l'enfant se retrouve sans parents sur l'acte de naissance, parce qu'il y a un nouvel acte de naissance qui est édité, et il peut partir à l'adoption, sachant que nous, famille d'accueil qui accueillons cet enfant, serions prioritaires. Et là, comme on était à 8 ou 9 mois, on commençait à l'envisager, parce que ça faisait quand même beaucoup déjà. Quand on nous a parlé de cette potentielle adoption, en fait, pour moi, la question s'est même pas posée de si oui ou non, c'était oui, c'était sûr et c'était certain. C'était mon petit frère déjà depuis, je pense, ses 2 ans. Et c'était la suite logique des choses. Sauf que la mère est revenue et le juge, à chaque fois, lui a autorisé de nouvelles visites. Quand sa mère réapparaissait, il avait le droit d'avoir des visites médiatisées vers Valence, où du coup c'était surveillé par des éducateurs, et en fonction de l'évolution, elle avait le droit de sortir un petit peu dans la rue, aller au parc, manger un snack avec lui. Et puis après, quand ça évoluait bien, elle avait le droit de le ramener à la maison ou autre. Quand il revenait des visites, il était très très dur. Il faisait pipi au lit. Il était encore plus capricieux, il faisait des colères et il mangeait pas forcément. En septembre 2023, Théo, du coup, a eu une audience où l'éducatrice a dit « Mais la mère, elle s'en sort pas trop mal, ça serait bien de mettre en place un peu plus de visites pour envisager un retour en famille d'ici un an. » Donc nous, on s'est un petit peu fait dessus, on va dire, en disant « Ça fait quand même 9 ans qu'il est à la maison, c'est un peu dur pour l'enfant en 6 mois, 1 an, de lui dire « Tu vas retourner chez ta maman, sachant que t'as des copains à l'école, ta maîtresse, ceci, cela, il faisait du sport. » Et du coup, moi, j'avais appelé une avocate et elle m'avait dit « Non, mais vous en faites pas. À cette audience-là, c'est sûr qu'il repartira pas. Il faut faire l'adaptation. » Je me dis « L'adaptation, c'est-à-dire préparer l'enfant à retourner chez sa maman, donc accélérer les visites, accélérer les hébergements et les agrandir. Donc passer d'une visite d'une demi-heure à une visite d'une heure, 2 heures, 3 heures, un week-end, une semaine de vacances, 2 semaines de vacances. » Sauf que ils ont avancé l'audience suivante au 14 juin. Le matin où il est parti, il était assez tendu. On avait beaucoup discuté la veille, je lui avais dit « Si t'as pas envie de partir, il faut que tu le dises. Si t'as envie de partir, t'as le droit de le dire aussi, il n'y a aucun souci. » Et il nous a répété, répété, répété qu'il n'avait pas envie de partir. Il le disait à ma mère, il le disait à moi en privé, il le disait à moi en public. Enfin voilà, il en a parlé à la maîtresse aussi un petit peu. Donc ce matin-là, il n'avait pas voulu petit déjeuner correctement. On s'est un petit peu pris la tête, mais quelque chose de tout bête. J'avais dû lui demander de ranger sa serviette et je lui ai dit « Bon, mais on en reparle ce soir quand tu rentres. » Avait été demandé à mon beau-père de déposer le petit au service, à l'ASE, et qu'ensuite ce serait les responsables à l'ASE, avec la mère, qui amèneraient le petit à l'audience. À la suite de l'audience, il était prévu, dans tous les cas, que mon beau-père attende de 11h à midi que ce petit garçon ait un débrief avec son éducatrice, sa mère et du coup son beau-père qui était présent à l'audience. Et sauf qu'en fait, au 11h45, le téléphone sonne et ils disent « Vous pouvez rentrer », et il est parti. Donc mon beau-père, comment ça, il est parti? Il est parti, il rentre à Saint-Étienne et vous le reverrez pas en fait. Il rentre chez sa mère, la juge a décidé et fait immédiat. Donc le petit, il avait pas son doudou, il avait pas son biberon parce qu'il dormait avec son biberon. Il avait pas ses jouets, il avait pas ses habits, il avait rien en fait de sa vie, il avait juste sa carte d'identité et ses habits qu'il portait sur lui. Et ma mère l'a su tout de suite parce que mon beau-père ou ma sœur lui a fait un message, et elle m'a fait un message immédiatement. Il me restait encore 2 patients dans la journée, sauf qu'en fait, d'un coup, l'émotion est montée. Je me suis enfermée dans la pièce 2 minutes, j'ai fondu en sanglots, et j'ai demandé à mon collègue de prendre en charge mes patients s'il le pouvait, sinon que je les décalais pour plus tard, et je suis rentrée à la maison. Ma mère et moi, on a beaucoup pleuré, et on a attendu, parce qu'en fait, on pensait que c'était un gag au début, tellement c'était soudain en fait. Donc on s'est dit on va attendre de voir des nouvelles et en fait non, il était vraiment parti. C'était vraiment un retour en famille. Et le soir même, normalement, il devait y avoir la kermesse de l'école avec encore 3 ou 4 jours, voire peut-être une semaine d'école. Et on s'est rendu à la kermesse avec ma mère en espérant de tout notre cœur qu'il y soit. Mais bon, il n'y était pas. Et ensuite, on est rentré à la maison. On a su peut-être que le dimanche soir ou lundi matin que On aurait le droit à une visite médiatisée de 20 minutes pour lui dire au revoir le mercredi qui suivait et pour lui ramener ses affaires. Sauf que, ben, malheureusement pour moi, j'étais en formation, donc j'ai pas pu y assister et ils ont pas voulu la décaler. Et du coup, à ce jour, je lui ai toujours pas dit au revoir. En tant qu'enfant biologique de famille d'accueil d'assistants familiaux, je pense que si demain j'appelle le service en disant « j'ai besoin de dire au revoir à ce petit parce que j'ai grandi 9 ans avec lui », ils vont me dire « mais vous êtes qui? Vous êtes personne, laissez-nous tranquille, le petit il a refait sa vie, ça fait 6 mois, c'est bon quoi, passez à autre chose ». On n'a pas du tout été entendu par un psy, on n'a pas du tout une autre mot à dire. Et au même titre que les autres enfants accueillis qui n'ont pas été entendus et écoutés, on est complètement délaissé et mis de côté et laissé pour compte. Il est parti à Saint-Étienne, donc à 2h30 de route de chez nous. En fait, on lui a promis, avant qu'il parte, peut-être 2 mois avant qu'il parte, on lui a dit si jamais tu pars, tous les 14 du mois, donc tous tes mois d'hiversaire, tu auras une lettre ou un petit colis. Donc je crois que depuis qu'il est parti, il y a eu 2 beaux colis. Et des lettres les plus simples possibles, parce que sur les conseils d'un avocat, on nous a dit qu'il ne faut surtout pas y mettre trop de sentiments pour ne pas le blesser, le brusquer et lui faire du mal plus que ce qu'il ne doit déjà souffrir. Donc des lettres toutes simples. Et dernière nouvelle qu'on a eue serait apparemment « arrêtez d'envoyer des colis, arrêtez d'envoyer des lettres, c'est trop intrusif dans sa vie ». Ce seraient apparemment les paroles du petit. « C'est trop intrusif dans notre vie, je veux rien de vous, je veux rien de la maison, je veux juste des nouvelles du chat ». Parce qu'il avait un chat chez nous. Donc voilà, quand on a su ça, on s'est dit c'est bizarre pour un enfant de 9 ans et demi d'avoir des paroles aussi adultes. Et depuis qu'on nous a demandé ça, du coup, on s'est dit qu'on allait continuer à écrire les lettres, mais qu'on ne les lui enverrait pas à Saint-Étienne, mais à Pierrelatte. Et le jour où il sera en âge de prendre contact avec nous, il pourra venir récupérer ses lettres et il verra qu'on n'a pas menti et qu'on lui a bien écrit tous les mois. Moi, aujourd'hui, j'en suis à... Je le culpabilise beaucoup, mais il faut que je le dise. Je suis partie à Bali il n'y a pas longtemps et j'ai fait une liste de à qui je dois ramener des souvenirs et je l'avais oublié dans la liste. Et là, en fait, je m'en suis rendu compte à l'aéroport que je l'avais oublié. Du coup, j'ai eu une petite larme qui a coulé. D'un autre côté, je me dis, c'est peut-être pas plus mal pour moi. C'est triste pour notre relation à l'heure actuelle. Mais c'est pas plus mal pour moi de me dire qu'en fait, j'ai avancé sans me rendre compte et tant mieux. Du coup, je pense que j'ai tourné la page et je suis prête, le jour où il revient, à rouvrir un livre avec lui parce que je l'attends de pied ferme. J'attends ce qu'il revienne dans ma vie quand même. Je sais que je le recroiserai. Le jour où il a 18 ans, j'irai le chercher sans souci si lui m'a pas contacté avant. Je le chercherai sur les réseaux avant, c'est sûr et certain. Je l'aime beaucoup trop pour le laisser partir comme ça et pour me dire que 9 ans de vie commune peuvent se volatiliser comme ça.
C'était Famille d'accueil, un reportage de Karine Lelouette réalisé par Benjamin Hu. Merci à Cyriane et à la première personne que nous avons interviewée qui préfère rester anonyme, ainsi qu'à sa mère. Merci également à Aurore, Louane, Lison, Mélanie, Solène, Jessica, Océane et Bastien. Merci à Valentin Rémy et à Inès Bouffartig, Sébastien qui sont notre attachés de production et notre stagiaire bien-aimée.
Vous pouvez retrouver cette émission sur franceculture.fr et l'application Radio France.
Vous êtes bien sur France Culture. Universel et solidaire, histoire de la sécurité sociale. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire de trou ?
Xavier Mauduit.
Charité bien ordonnée commence par une histoire de l'hôpital pour soigner les pauvres et par celle des sociétés de secours mutuelles, à cotiser. Et voici la sécurité sociale. Elle voit le jour, heureux, en octobre 1945, mais elle est désormais confrontée à une sombre affaire de trou, une histoire à creuser.
Le cours de l'histoire, du lundi au vendredi à 9h sur France Culture, franceculture.fr et l'appli Radio France. Les matins de France Culture. Guillaume Erner.
Bonjour et bon réveil à tous. Alors, quoi de neuf dans l'actualité aujourd'hui ? Eh bien, l'être humain, ben oui, ça ne fait que 300 000 ans que l'être humain est là et il était temps qu'on en parle. C'est ce que l'on va faire avec l'un des plus grands paléo-anthropologues, Jean-Jacques Hublin. Il sera à ce micro aux environs de 7h40 et il vous dira tout sur la femme, sur l'homme, sur l'hominisation. En attendant, il est 6h30 sur France Culture. Et voici le journal de Marion Ferrer. Bonjour Marion.
Bonjour Guillaume, bonjour à tous. La guerre en Ukraine, un nouveau pas de franchi avec l'emploi par les Ukrainiens de missiles de longue portée. Hier, pour la première fois, ils ont tiré avec des ogives britanniques. Dans ce journal, les précisions de notre correspondant à Londres.
La sanction du Bureau national de l'Assemblée à l'encontre du député insoumis Thomas Porte. Lui sont reprochés des menaces et insultes lors d'une séance de questions au gouvernement.
Et puis Pierre Palmade ira bien en prison. Le tribunal a rendu son jugement hier, 5 ans de prison, dont 2 fermes. Et les Ukrainiens n'ont pas attendu longtemps pour utiliser des missiles de longue portée après le feu vert des États-Unis. Hier, Kiev a tiré des missiles britanniques sur le sol russe. C'est une première. Le Royaume-Uni ne le confirme pas officiellement, pas plus que les autorités ukrainiennes. Mais il s'agit là d'un nouveau pas logique dans le combat contre l'invasion russe. Richard Place, Londres, a toujours été en pointe pour aider l'Ukraine.
Boris Johnson, Liz Truss, Rishi Sunak et maintenant Keir Starmer, s'il y a un point commun entre tous ces premiers ministres, c'est le soutien sans faille à l'Ukraine. Dès l'offensive décidée par Vladimir Poutine il y a un peu moins de 3 ans, le Royaume-Uni s'est rangé aux côtés des Ukrainiens. Au total, plus de 15 milliards d'euros d'investissement, dont 9 pour l'aide militaire. Près de 50 000 soldats ukrainiens sont venus se former sur le sol britannique. En coulisses, Londres insistait pour autoriser Volodymyr Zelensky à utiliser ses missiles à longue portée. Il a fallu attendre le feu vert de Washington. Les autorités britanniques ne veulent surtout pas froisser le cousin d'Amérique, tout en essayant systématiquement de se montrer plus rapide et plus efficace que l'Europe. Hier matin encore, le président ukrainien remerciait le Royaume-Uni pour son aide indéfectible qui a permis de sauver d'innombrables vies.
Et Richard Place à Londres pour France Culture. La COP 29 en Azerbaïdjan, les choses s'accélèrent à 48 heures de la fin du sommet. Une première ébauche de texte a été présentée ce matin. La journée de ce jeudi, elle sera consacrée aux questions de genre. Nous reviendrons sur le sujet dans le journal de 7 heures. L'environnement également au cœur du déplacement aujourd'hui d'Emmanuel Macron au Chili. Le chef de l'État achève sa tournée en Amérique latine. Il doit se rendre ce matin à bord du brise-glace Alirante Viel, aux côtés de son homologue chilien Gabriel Boric. À bord du navire, ils lanceront un appel de Valparaiso pour préparer la conférence des Nations Unies sur les océans prévue en juin prochain à Nice. En France, les agriculteurs continuent de se mobiliser contre le traité de libre-échange contre le Mercosur. Mouvement réduit pour le moment aux actions des bonnets jaunes de la coordination rurale. La ministre de l'Agriculture, Annie Genevard, doit d'ailleurs rencontrer des exploitants dans la matinée. Échange prévu dans le Pas-de-Calais, près de Béthune. La FNSEA, les jeunes agriculteurs, eux, ont pris des distances avec les actions en cours et prévoient de nouvelles manifestations la semaine prochaine, mardi, mercredi et jeudi, pour, je cite, dénoncer les entraves à l'agriculture.
6h33 sur France Culture, c'est la suite du journal de Marion Ferrer, troisième et dernier jour du congrès de l'Association des maires de France, aujourd'hui à Paris, ça se déroule porte de Versailles.
Un congrès qui se tient dans un contexte de tension liée aux coupes budgétaires prévues par l'État. La contribution annoncée de 5 milliards d'euros pour les collectivités est en réalité estimée à 11 milliards par les élus. Ces derniers attendent de pied ferme le discours de clôture prononcé aujourd'hui par le Premier ministre. Nous y reviendrons dans le journal. journal de 8 heures. Et puis le député insoumis Thomas Porte, sanctionné par le Bureau national de l'Assemblée. Il lui était reproché des propos menaçants et insultants tenus dans l'hémicycle lors de questions au gouvernement à l'encontre des bancs du Rassemblement national. À 11 voix contre 2 et une abstention, le bureau lui a infligé un rappel à l'ordre avec inscription au procès verbal, Antoine Maretz.
Il s'agit de la deuxième sanction possible sur une échelle de 4. Elle comporte la privation pendant un mois du quart de l'indemnité parlementaire, soit un peu moins de 1500 euros. Les insultes et les menaces n'ont pas leur place dans l'hémicycle, a aussitôt réagi la présidente de l'Assemblée nationale, Yaël Braun-Pivet, et d'ajouter « Les députés ont un devoir d'exemplarité et doivent se montrer dignes du mandat qui leur a été confié par les Français ». Les faits remontent au 30 octobre dernier, alors que la députée LFI Nathalie Auziol adresse une question au gouvernement sur le Proche-Orient. Le ton monte entre les élus insoumis et ceux du Rassemblement national. Le RN Laurent Jacobelli qualifie ses adversaires de porte-parole du Hamas. À l'opposé de l'hémicycle, Thomas Porte s'emporte et menace un élu d'extrême droite. « Ferme ta gueule, on va s'occuper de toi, on va s'expliquer dehors, tu vas voir », lance-t-il. Des propos qui lui ont donc valu ce rappel à l'ordre et qui ont provoqué une division de la gauche. Selon plusieurs sources parlementaires, un député socialiste et un autre écologiste se sont prononcés pour cette sanction.
Et les précisions d'Antoine Maretz pour France Culture. Pierre Palmade, lui, ira en prison. Le tribunal de Melun, en Seine-et-Marne, a suivi les réquisitions du parquet. L'humoriste a été condamné hier à 5 ans de prison, dont 2 fermes. Il est reconnu coupable de blessures involontaires pour conduite sous l'emprise de stupéfiants en état de récidive pour le grave accident de la route qu'il a causé en février 2023. Les détails de Delphine Evenou.
À l'énoncé du jugement, Pierre Palmade, main posée sur la barre, reste droit, ne bouge pas. Il échange ensuite longuement avec ses avocats. L'humoriste sera bientôt convoqué par le procureur de la République de Bordeaux, c'est là qu'il habite désormais. Le magistrat lui indiquera l'établissement pénitentiaire où il effectuera sa peine de prison. 2 ans ferme donc et 3 ans avec sursis probatoire. Pierre Palmade a également l'obligation de se soigner, de travailler et d'indemniser les victimes. Mourad Batik, l'avocat des parties civiles, prend acte de ce jugement.
Nous sommes satisfaits de la tenue des débats. Ça a été une longue journée pour mes clients. Chacun a pu exprimer ce qu'il a ressenti avant, pendant et après cette journée dramatique. Le tribunal a écouté, le tribunal a tranché, le tribunal a arbitré. Nous n'avons pas de commentaires à faire sur la peine.
« Je suis effrayé à l'idée de faire de la prison », avait déclaré Pierre Palmade lors de l'instruction. « On ne peut pas être trop indulgent », a plaidé la procureure dans son réquisitoire. Elle reconnaît aussi les remords immédiats et le parcours d'abstinence de Pierre Palmade. Un homme devenu le défouloir de la France depuis 2 ans, souligne son avocate. La défense a quitté le tribunal, loin des caméras et micros. Pierre Palmade a 10 jours pour faire appel.
Le compte-rendu signé Delphine Evenou. Pas de grande pagaille sur les rails aujourd'hui. Malgré la grève SNCF, une mobilisation à l'appel des syndicats en demi-teinte qui ressemble à un aveu d'échec alors que ces syndicats cherchaient à mobiliser fortement après l'annonce du démantèlement du fret SNCF début novembre. La veille, les cheminots ont obtenu de leur direction une augmentation des salaires moyennes de 2,2%. Les syndicats doivent désormais ratifier ce texte. La météo, vigilance. Aujourd'hui, la dépression Caetano traverse le pays. Météo France place 54 départements en alerte orange, certains pour neige et verglas, d'autres pour vent. Vigilance en cours dès ce matin. Les températures, elles sont fraîches au réveil, entre 1 et 11 degrés sur le nord du pays, entre 2 et 15 au sud. Ça grimpe jusqu'à 17 degrés dans le sud-ouest de la France cet après-midi.
Les matins de France Culture. Guillaume Erner.
Merci Marion Ferrer, il faut le dire, il faut avoir le courage de le dire, il fait froid. Il fait froid et voici donc les enjeux internationaux. Bonjour Auguste Eman.
Bonjour Guillaume Erner.
Vous êtes maître de conférence en droit privé à la faculté de droit de Nantes. Nous allons évoquer le Gabon avec une question: de quel côté penche cette transition gabonaise? Les Gabonais qui étaient appelés aux urnes ce week-end se sont largement prononcés en faveur d'une nouvelle constitution. Cette réforme s'inscrit dans une dynamique de changement politique après le coup d'état militaire du 30 août 2023 qui a mis fin à plus de 50 ans de règne des Bongos, des observateurs internationaux internationaux ont été invités, témoignant de la volonté d'assurer la transparence du processus en attendant les élections présidentielles de 2025. Pourtant, certains opposants qualifient ce texte de dictatorial. Faut-il y voir un véritable processus démocratique ou bien une tentative de consolidation du pouvoir militaire? Je pense que c'est important, Auguste Eman, de restituer le contexte politique, de nous dire ce qu'ont été ces 50 années de règne des Bongos.
Alors, dire ce qu'ont été les 50 années du règne des Bongos en 10 minutes, ce serait difficile.
Non. Absolument.
Mais par contre, expliquer pourquoi le coup d'État et pourquoi on est arrivé au référendum, c'est assez facile, assez rapide à dresser, puisque le coup d'État est la conséquence du pouvoir des Bongos et notamment des 14 dernières années d'Ali Bongo.
Mmh. Dans quelle mesure est-ce la conséquence donc de ce coup d'État ?
Alors, le coup d'État du 30 août fait suite à une énième tentative de manipulation du résultat des élections, puisqu'il y a une élection présidentielle au Gabon le 26 août, et les résultats annoncés ne correspondent pas à la réalité des urnes. Et comme cela s'est fait en 2016, comme cela s'est fait en 2009, le pouvoir s'apprêtait a proclamé sa victoire. Et c'est là où les militaires interviennent pour mettre fin à ce qui était considéré comme une mascarade et décident d'engager un processus de restauration des institutions. C'est d'ailleurs le nom du comité qu'ils ont mis en place.
Et oui, ça n'est pas rien, puisque donc les Bongos, à la fois Omar et son fils Ali, ont été au pouvoir de 1967 à 2023, et ils ont consolidé ce que l'on peut appeler un pouvoir dynastique avec une gestion extrêmement controversée des ressources pétrolières, je le dis avec une certaine forme d'atténuation. Alors aujourd'hui, est-ce qu'on peut considérer que ce processus est démocratique ?
Alors, je pense que la question n'est pas de savoir si c'est démocratique ou non, parce que nous sommes en régime d'exception. Et ce serait quand même malvenu de ma part de parler de démocratie alors que nous sommes en régime d'exception. Pour autant, et les militaires d'ailleurs aspiraient à mettre en place un processus participatif, un processus d'inclusion. Et de ce point de vue, les choses se déroulent à peu près comme il avait annoncé.
Donc, il y a effectivement un processus qui correspond à ce qui était promis. En quoi le nouveau texte constitutionnel diffère-t-il de l'ancien ?
Alors, la différence fondamentale, c'est que l'on est passé d'un régime semi-présidentiel qui reprenait grosso modo les caractéristiques du régime de la Ve République à un régime qui a été annoncé comme présidentiel, où effectivement il y a un exécutif fort et même très fort. En face de lui, il y a un Parlement, mais la voie qui a été choisie, c'est celle-là.
La voie qui a été choisie, est-ce qu'elle peut laisser imaginer que le droit va permettre de tourner la page du régime jadis et donc de conduire à une démocratie dans ce pays ?
Alors, je pense qu'il est encore trop tôt pour se prononcer là-dessus, et j'ai tendance toujours à dire que même en tant que juriste, nous avons tendance à trop fétichiser les textes. Les textes ne font pas tout, c'est la pratique des hommes. Et le Gabon n'a pas souffert d'un problème lié à des mauvais textes. Le Gabon a souffert d'un problème lié à la mauvaise application ou au refus d'application des textes, puisque la constitution de 91 qui était en vigueur jusque-là, au début, tout le monde en était satisfait. Mais à force de révision, à force de changement, y compris quelques mois avant les dernières élections, ce texte avait fini par ne plus ressembler à rien.
Ouais, alors vous dites qu'un bon texte peut aboutir à une mauvaise pratique, mais là, l'opposition dit que le texte, d'ores et déjà, est mauvais.
Oui, alors, l'opposition, de quelle opposition il s'agit également? Parce que reproche l'opposition? Alors, à titre personnel, il y a un certain nombre de choses qui sont discutables dans ce texte, et notamment le fait qu'on dise qu'on est en présence d'un régime présidentiel, un régime présidentiel est aussi démocratique qu'un régime parlementaire ou semi-parlementaire. Pour moi, le débat n'est pas à ce niveau. Le débat, là où ça commence à coincer, c'est que un régime présidentiel où le président a le pouvoir de dissolution de l'Assemblée, ça questionne quelque peu. Donc ça c'est déjà une interrogation. Donc du coup, on sur-renforce le pouvoir du président. Par ailleurs, les aspects discutables, c'est au niveau de l'éligibilité du président. Alors ça a beaucoup été atténué, mais il y a quand même des conditions. Alors, il faut être gabonais de nationalité, un des parents gabonais, oui, pourquoi pas. Mais il faut avoir résidé au Gabon 3 ans avant l'élection. Le petit souci, c'est que le texte qui a été voté samedi dernier, il y a une disposition dans les dispositions finales où il est dit qu'il ne sera appliqué qu'à partir du prochain mandat du président, sauf pour les dispositions qui concernent l'éligibilité. Là, effectivement, ça devient problématique.
Et oui, c'est ça. Alors, bon, l'ex-premier ministre, puisque vous me demandiez quelle opposition était opposée à ce texte, alors, par exemple, parmi les personnes très critiques, il y a l'ancien premier ministre Alain-Claude Bidi-Binzé, qui n'a pas ménagé ses critiques, et estimant donc que ce texte allait renforcer le pouvoir exécutif, qu'il puisse y avoir une dérive dictatoriale. Et alors, j'ai noté que parmi les mesures controversées, il y en a une en tout cas dont on comprend bien le sens, c'est le fait de poser des limites d'âge. Alors, pour être président, il faudra avoir au moins 35 ans et moins de 70 ans pour se présenter.
Oui, mais alors là aussi, sans vouloir faire de polémique, l'opposition de quand Monsieur Alain-Claude Bidi-Binzé parle d'un régime dictatorial, bon, j'ai envie de sourire un tout petit peu parce qu'il faut quand même savoir aussi qui est Monsieur Alain-Claude Bidi-Binzé pour donner des leçons de démocratie. Il faut avoir des diplômes en la matière. Bon, je pense pas que
on peut faire de la formation continue.
Oui. Mais enfin, en droit, il y a aussi ce qu'on appelle un délai de viduité. Lorsqu'on a été aux affaires, je pense que il est un peu plus sage d'attendre avant de réagir. Mais enfin, ce n'est pas cela le problème ici. Effectivement, il y a des conditions qui posent problème. Mais encore une fois, je dis, il faut comprendre cette constitution au regard de la situation qui était celle du Gabon. Il y a un certain nombre de dispositions avec lesquelles, moi je ne suis pas d'accord sur les questions de nationalité, mais qu'on ne peut comprendre qu'au regard de ce qui a précédé, de ce qu'a été la gouvernance de M. Ali Bongo. Et ce texte, alors on peut être critique là-dessus, mais le processus qui a conduit à ce texte, mais ce processus correspond à ce qui avait été annoncé par les militaires, c'est-à-dire qu'une vaste concertation des Gabonais, il y a eu 38 000 propositions qui ont été envoyées par des Gabonais, et il y a eu un dialogue national inclusif qui a réuni un certain nombre de Gabonais. Après, on peut critiquer effectivement le fait que ce soit les militaires qui aient désigné les Gabonais qui participaient à ce dialogue, mais n'empêche qu'il y avait des Gabonais, et le texte, en fait, reprend. Et d'ailleurs, ne reprend même pas tout, parce que le texte reprend ce qui ressortait des contributions en question.
Et là aussi, on peut voir qu'il y a une rupture politique en cours, mais que cette rupture politique va être freinée par l'ancien personnel politique qui, évidemment, l'observe d'un mauvais œil quand vous parliez donc de l'ancien Premier ministre dont vous doutiez des compétences démocratiques.
Oui, mais alors c'est encore plus complexe que ça parce que vous parlez de M. Alain-Claude Bidi-Binzé, qui d'ailleurs, à juste titre, s'étonne que dans l'équipe de direction actuelle du pays, dans les sphères dirigeantes du pays aujourd'hui, on retrouve des éminents membres du Parti démocratique gabonais. Parti démocratique gabonais qui est quand même, parce qu'on a tendance à présenter la situation du Gabon aujourd'hui comme résultant de la mauvaise gouvernance d'Ali Bongo, mais Ali Bongo n'était pas tout seul. Ali Bongo n'était pas qu'avec sa femme, son fils et
Bien
son
sûr.
Directeur
et
de cabinet.
Il y avait tout un système qu'il faut évidemment évoquer. Merci beaucoup, Augustin Eman. Je rappelle que vous êtes maître de conférence en droit privé à la faculté de droit de Nantes. Les titres de la presse, un titre en passant, tiens, la une du Figaro, Boris Johnson, l'ancien Premier ministre anglais déclare « Trump est plus chouette qu'on ne le pense ». Voilà, je ne sais pas ce que vous pensez de Trump, on va voir si celui-ci est chouette. À la une de l'opinion, le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, fait battre le cœur des militants. C'est ce que dit l'opinion, tandis que l'hôte de Matignon, Michel Barnier, s'applique à durer. Dans les échos, une France sans budget, Marine Le Pen s'est déclarée prête mercredi à censurer le gouvernement si le pouvoir d'achat des Français venait être amputé. À la une de Libération, colère sociale, Barnier habillé pour l'hiver, différentes colères, les agriculteurs, les cheminots, les fonctionnaires. À la une de La Croix, l'industrie face à la crainte de l'effet domino, l'inquiétude monte en France avec l'annonce de nombreux plans sociaux. À la une de l'Humanité, liquidation de fret SNCF, un scandale d'État. Et puis je termine avec Le Parisien, le ministre de l'économie qui met en garde attention à l'impôt de trop. Dans quelques instants, ça sera Alexandra Delbo qui parlera d'une virothérapie artisanale.
Comment la vie, exclusivement marine, est-elle sortie de l'eau ? Marc Mortelmans vous raconte l'aventure des premiers explorateurs qui passent de l'eau à la terre avant de conquérir le ciel, sans oublier ceux qui sont retournés à l'eau, comme les baleines ou les manchots.
Dans les premiers océans, des molécules trouvent le moyen de s'agréger, puis de se reproduire.
Mécanique du vivant, une collection par Marc Mortelmans, réalisée par Charlotte Roux, à écouter sur franceculture.fr et l'application Radio France.
Une récente étude de l'INSERM passe au crible les comportements sexuels des Français et des Françaises de 18 à 89 ans.
Sonia Kronlund.
Recul de l'âge des premières fois, diversité des pratiques, puissance du numérique.
Au bout d'un moment, on parle cul et il m'envoie une photo de son pantalon, quoi. Et ça, c'est très excitant, évidemment.
Dernière nouvelle du sexe, 20 ans d'évolution des sexualités. Ce sont 13 épisodes proposés par les Pieds sur Terre pour illustrer les résultats de cette vaste enquête. À écouter sur franceculture.fr et l'application Radio France.
En partenariat avec Libération.
6h51 sur France Culture.
6h30, 9h, les matins de France Culture. Guillaume Erner.
Alexandra Delbo, bonjour.
Bonjour Guillaume, bonjour avec à toutes
science.
Et à tous.
Et on n'arrête pas le progrès puisque ce matin, une chercheuse s'est soignée toute seule avec ce que vous appelez une virothérapie artisanale.
Oui, une automédication directement dans le laboratoire. Ces virothérapies font partie de nouveaux traitements en cours de développement pour soigner certains cancers. Et tout part d'une observation dans les années 70 des patients porteurs de leucémie. Un cancer du sang donc, ont vu une rémission partielle de leur maladie en attrapant la rougeole. Une infection virale peut donc conduire à l'élimination de cellules cancéreuses. C'est ce principe qui est à la base des virothérapies qu'on appelle aussi immunothérapie oncolytique. Jean-François Fontenot est chargé de recherche INSERM au Centre de recherche en cancérologie et immunologie intégrée de Nantes-Angers.
Alors le principe, c'est d'utiliser des virus qui sont inoffensifs pour l'homme mais qui vont se répliquer dans les cellules tumorales du patient. Et ils vont pas se répliquer dans les cellules saines. Lorsqu'ils se répliquent dans les cellules tumorales, ils vont entraîner la mort de la cellule tumorale. Et c'est une forme de mort cellulaire très immunogène qui va activer le système immunitaire du patient. Et le système immunitaire va venir dans les tumeurs et va se mettre à attaquer les cellules tumorales infectées par le virus, mais aussi des cellules tumorales non infectées. Il y a plein de virus qui sont à l'étude. Pour l'instant, il y a 3 virus qui sont approuvés. Il y a ce fameux virus de l'herpès pour le cancer de la peau, mais comme il est moins efficace que d'autres nouvelles thérapies, il est peu utilisé. Il y a un virus qui vient juste d'être approuvé aux États-Unis pour le cancer de la vessie. Chez des patients qui sont résistants à la thérapie classique du cancer de la vessie, ce virus donne de très bons résultats. Et il y a un troisième virus qui est approuvé au Japon pour le traitement du glioblastome, un cancer au cerveau.
Donc ce n'est pas théoriquement n'importe quel virus, on n'approche pas une personne grippée d'une personne malade de son cancer par exemple. Les virus sont choisis et surtout purifiés et standardisés. Les virothérapies oncolytiques sont donc encore des remèdes de deuxième ligne et elles ne concernent pas encore tous les cancers.
Bon, cette chercheuse n'était donc pas éligible à une telle thérapie?
Eh bien non, parce qu'elle a développé un cancer du sein, mais ce qui l'a motivée, c'est un, bien sûr, la volonté de s'en sortir et deux, ne pas passer une deuxième fois par la case chimiothérapie. Beata Alassi, cette virologue d'une cinquantaine d'années, a choisi de s'injecter une virothérapie faite maison lors de la seconde récidive de son cancer après une mastectomie. Elle a fouillé la littérature scientifique pour trouver le bon protocole, deux virus distincts avec des doses normalement bien tolérées et a obtenu l'accord de son oncologue pour la suivre. Dans cette nouvelle étude, la chercheuse est donc à la fois dernière autrice du papier et unique patiente. Et résultat, après deux mois d'injection, le traitement a fonctionné et elle est guérie.
Ils ont injecté le virus dans la tumeur tous les trois jours, tout d'abord pendant un mois avec le virus de la rougeole atténuée et un mois d'injection du VSV, du virus de la somatite vésiculaire. La tumeur a été très dure pour faire l'injection, ils avaient du mal à entrer dans la tumeur, tandis qu'au fur et à mesure du traitement, la tumeur est devenue beaucoup plus souple, beaucoup plus molle. Et elle a diminué en taille. Ils ont pu l'enlever facilement par chirurgie. Et depuis 4 ans, la tumeur n'a pas réapparu. Et ils ont comparé ce qu'il y avait dans la tumeur avant et après. Et après le traitement, il restait très peu de cellules tumorales. Par contre, il y avait beaucoup de cellules du système immunitaire qui sont arrivées dans la tumeur. Les cellules immunitaires, des globules blancs, viennent tuer des cellules tumorales dans la tumeur. Mais il faut bien se rendre compte que ce n'est pas un essai clinique, c'est un rapport de cas. Un essai clinique, c'est bien plus cadré que ça. Le fait que ce soit fait sans cadre éthique pose quand même des problèmes.
Un rapport de cas comme celui-ci, donc la description d'un patient et d'un traitement est toujours intéressant. Et c'est évidemment une excellente nouvelle que cette patiente chercheuse soit en rémission depuis 4 ans. En revanche, les questionnements éthiques d'une telle démarche sont nombreux, ce qui explique au demeurant la frilosité des journaux scientifiques pour publier cet article. Il a fallu essuyer 12 refus avant d'être accepté dans la revue Vaccines. Et si ça avait mal tourné? Et si le traitement n'avait pas marché ou que des effets secondaires graves étaient survenus? Et puis, cette virothérapie artisanale, c'est un petit peu de la tambouille maison. Le protocole est censé, certes, mais ce sont des virus de laboratoire, donc loin d'être aussi purs qu'un lot pharmaceutique. En France, pour un tel essai, il faut déposer un PHRC, un protocole hospitalier de recherche clinique, avec plein d'étapes et de commissions. La recherche encadrée suit d'ailleurs son cours. Des essais cliniques de virothérapie avec le virus atténué de la rougeole devraient commencer en 2026 à l'Institut Gustave Roussy en collaboration avec Frédéric Tanguy de l'Institut Pasteur et la start-up Oncovita. Et ce n'est qu'avec ce genre d'études, encadrées, contrôlées, avec l'aval des commissions éthiques et sur un nombre de patients conséquents que l'on pourra trancher quant à l'efficacité de ce traitement.
Merci beaucoup Alexandra Delbo, c'était donc Avec Science.
6h tout juste 57 sur France Culture et c'est l'heure de votre humeur du jour, Guillaume. Et ce matin, combien vaut une maison hantée?
Bah oui, je sais à qui je m'adresse, à Alexandra, la femme qui incarne la rationalité dans les matins de France Culture. Vous savez, la raison scientifique, le no-nonsense, que du prouvé, pas de non-sens, des tests en double aveugle.
Et voilà,
je dois vous avouer que j'ai une passion honteuse. Alexandra, les annonces immobilières, vous savez, je les regarde, c'est une forme d'auto-hypnose. Et je suis tombé sur l'annonce suivante hier. Maison à vendre en Toscane, 258 mètres carrés, 5 chambres, 4 salles de bain. Bon, jusqu'ici, rien de spécial. Proche de Montepulciano, je suis allé cet été faire du vélo là-bas. C'est absolument sublime. 555 000 euros. Bon, pourquoi pas, je ne connais pas les prix de l'immobilier en Toscane. Précédent prix, 995 000 euros. Alors, ça fait quand même une sacrée réduction. Pourquoi? Eh bien, je cite, parce que les propriétaires actuels vendent la maison parce qu'ils la pensent hantée. Mmh. Alors là, je sais que cette maison campagnarde change de dimension pour vous. On passe du naturel au surnaturel, un peu comme dans le dernier John Irving. Vous savez, il était venu il y a quelques matins, les fantômes de l'hôtel Jérôme. Mais là, c'est pas l'hôtel Jérôme, c'est une maison en Toscane. Évidemment, vous et moi, Alexandra, on ne croit pas aux fantômes, surtout vous d'ailleurs.
Moi, je sais. Moi, oui.
Ben moi, cette annonce, elle me fait un peu peur. C'est comme, vous savez, le jeu auquel on jouait lorsqu'on était petit, où on demandait à un camarade de nous vendre son âme. Vous vous vendiez votre âme ?
Oui.
Bon, voilà.
Très peu. Un Kinder.
Ben pas tous, parce que même si on avait beaucoup de camarades rationnels, beaucoup hésitaient. Et aujourd'hui, je me dis que tout le monde n'a pas forcément d'acheter une maison hantée, même à moitié prix. La question est donc une question très sérieuse. D'ailleurs, elle rompt avec les lois du marché, Alexandra, parce qu'une maison hantée, c'est rare. Donc, si on était des capitalistes conséquents, eh bien, cette maison, elle pourrait être deux fois plus chère et non vendue à moitié prix. Oui, mais la sociologie nous enseigne que lorsqu'une chose est perçue comme réelle, elle devient réelle dans ses conséquences. Autrement dit, si la maison est perçue comme hantée, beaucoup de personnes ne seront pas intéressées. Et ce, même s'il y a de très belles prestations, vous savez, des grands placards, des
doubles vitrages. Vous aimez vraiment les annonces immobilières.
Voilà, du chauffage au sol, ça c'est important. La revente risque donc d'être difficile. Les acheteurs potentiels vont s'entendre dire « Ah, c'est vous le fada qui veut acheter la maison hantée ». C'est pourquoi il est probablement difficile de vendre une maison tellement bien équipée qu'elle est pourvue d'un ou de plusieurs fantômes, à moins que ce soit un argument publicitaire, parce qu'il y a des gens qui sont prêts à mettre plus cher pour une maison hantée. Et alors dans ce cas, je me dis, si au bout de 6 mois, on n'a toujours pas vu de fantôme,